La Dourbie 2. Suite de l'exploration sensible d'une rivière en partenariat avec les services GEMAPI et Patrimoine de la communauté de communes Salagou Cœur d'Hérault.
La voie ferrée que l'on vient de traverser est étroitement liée à l'histoire de la viticulture. Du Moyen-Âge au XVIIe siècle, l'agriculture se caractérise par la polyactivité. Polyculture, artisanat, activités manufacturières et transports muletiers. La seconde moitié du XVIIe siècle est marquée par l'industrialisation du Languedoc sous le roi Louis XIV et son ministre Colbert, afin de dynamiser l'économie de la région. Naissent à cette époque le canal du Midi, le port de Sète et la manufacture royale de Villeneuvette. Le XVIIIe siècle connaît des conditions climatiques difficiles avec des hivers très rigoureux. La production de vin dans le nord de la France est très touchée. Le vin manque et cela favorise la commercialisation des vins du Languedoc. C'est le début de l'aventure viticole du sud de la France. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec le recul progressif de l'industrie textile drapière, que la viticulture va connaître son essor. La création de lignes de chemin de fer à partir des années 1860 favorise les échanges commerciaux et l'implantation de négociants. Le vin s'exporte, les céréales s'importent, les champs de céréales sont remplacés par des vignes. C'est l'apparition de la monoculture. Les différentes maladies, le phylloxéra 1870 puis le mildiou, et la grande crise viticole de 1907 due à la surproduction, vont freiner l'expansion du vignoble local. Les vignes malades sont arrachées, représentant une grosse perte, surtout pour les petits producteurs, qui pour beaucoup se retrouvent ruinés. N'ayant pas les moyens de replanter toutes leurs vignes avec des plants américains trop coûteux, ils sont obligés de vendre une partie de leurs terres aux plus gros propriétaires, qui avaient bâti des châteaux appelés Folies ou Château Pinardier. C'est dans ce contexte de crise qu'un mouvement coopératif va naître, résultat du combat des petits producteurs pour maintenir leurs principales ressources. Les premières caves coopératives voient le jour dès 1900-1910 et se généralisent surtout dans les années 30. La vie de ce mouvement va durer plusieurs décennies. Il va connaître des crises successives jusqu'à un déclin à partir des années 80. L'histoire viticole est également marquée par la production de raisins de table, qui apporte des revenus complémentaires, notamment en période de crise du vin. Le raisin de table, d'abord planté pour la consommation personnelle, est petit à petit cultivé pour la vente et l'exportation, mais là aussi, le marché du raisin de table ne dure qu'un temps. Le raisin de table se vendangeait principalement au mois d'août, le chasselas et le cervant étant les principaux cépages cultivés depuis le milieu du 19e siècle. La région clermontaise était surnommée la capitale du raisin de table. Le raisin était vendu principalement à Clermont-l'Hérault, soit par les producteurs eux-mêmes le matin sous le marché, ou via des expéditeurs. C'était la loi de l'offre et de la demande. Les prix variaient en conséquence. Les producteurs fournissaient les raisins emballés sur plateau, prêts à vendre ou bruts. Dans ce dernier cas, les raisins étaient alors emballés sur place, dans les entrepôts à proximité des quais. Les plateaux de raisins étaient ensuite expédiés dans toute la France via le train ou plus tard transportés par des semi-remorques. Fin 1960, 15 000 tonnes de raisins de table sont expédiées par le rail en wagon complet. La production de raisins de table va décliner progressivement à la fin des années 70 à cause de la concurrence des raisins étrangers et des nouveaux types de consommation. De nos jours, quelques producteurs cultivent encore du raisin de table vendu sur les marchés l'été. Revenons-en à notre voie ferrée et à son histoire. Le chemin de fer est apparu en France dans les années 1820. Dans notre région, il faut attendre 1839 pour voir naître la première ligne Montpellier-Sète. En 1852, trois compagnies se partagent la ligne de l'Hérault, dont la compagnie du Midi, avec la ligne Vias-Lodève. En avril 1863 est ouverte cette nouvelle ligne, avec un arrêt aspirant et la construction d'une gare après 10 ans de travaux. Cette ligne fait vivre la commune et ses alentours pendant plus de 100 ans, en lui permettant de s'ouvrir vers l'extérieur, en raccourcissant les délais de transport et bénéficiant du commerce de cette ligne, avec notamment la viticulture qui se développe grâce aux nombreux trains de marchandises. Depuis 1963, plus aucun train de voyageurs ne circule sur la portion Lodève-Polan, mais il y a encore des trains de marchandises qui transportent le minerai d'uranium des mines de la Cogéma de Lodève jusqu'au début des années 1990. La ligne Vias-Lodève, il faut 8 ans pour finaliser la partie administrative du projet, mais uniquement 2 ans pour construire la ligne. Elle est inaugurée le 6 avril 1863. Ce sont des ouvriers des manufactures drapières qui sont embauchés sur le gros œuvre de terrassement et des ponts. La plupart d'entre eux restent employés des chemins de fer. Les trains ne vont pas vite, 50 km/h en moyenne. En 1865, de la gare d'Aspirant, il y a 4 trains de voyageurs par jour et 3 de marchandises. Par exemple, pour aller de Vias à Lodève le matin, il faut partir à 5h52 et le train arrive à 8h28, soit presque 3 heures pour une 60aine de kilomètres. En 1905, 10 à 15 000 tonnes de marchandises et 40 à 45 000 voyageurs transitent par Aspirant. De très nombreuses marchandises passent par la gare d'Aspirant. Des produits alimentaires, volailles et bétail, pommes de terre, céréales, sucre, vin, et les années 50, le raisin de table. Des produits industriels, du pétrole de gabion, du minerai d'uranium, du charbon, du basalte, et également du matériel agricole, tracteurs, charrues, roues de charrette, matériel d'irrigation. Dans les années 60, les derniers trains de voyageurs sont pour les pèlerins qui vont à Lourdes. La hausse des tarifs, les horaires peu adaptés aux besoins des voyageurs, ainsi que la concurrence du transport routier en plein essor, vont mettre progressivement un coup d'arrêt à ces petites lignes qui vont petit à petit disparaître. La fermeture de la ligne Via Slodev aux voyageurs aura lieu un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et la fermeture aux trains de marchandises en 1991. L'autoroute A75 actuelle, inaugurée en 2002, suit en grande partie l'ancienne voie ferroviaire. Le passé et le présent se rencontrent.